bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadorou-Jabi. Monsieur Guillermo Guiz, eh ouais, comment ça va? Monsieur Tom Villa, Daniel Morin.
Ouais.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et notre invité est Jean-Michel Jarre.
Bravo.
Bonjour.
Bienvenue Jean-Michel, ravi de vous accueillir. Et on aura en live également tout à l'heure LP.
Bah ici.
Elle était déjà venue
nous le présenter alors que c'était pas un succès.
Depuis,
ça venait de sortir. Depuis, grâce à nous, évidemment, c'est mondialement connu. Et Jean-Michel Jarre s'est dit, tiens, je vais faire pareil. Je vais aussi devenir mondialement connu en venant dans la bande originale.
Mais bonne idée, il avait besoin de nous, Jean-Michel.
Ouais. Ouais. Je vous signale tout de suite qu'il faut parler fort parce que je viens de prendre l'avion, je n'entends rien.
Ce qui
est un peu con pour le...
Pour une radio.
Pour une radio, ouais. Pour la télé, ça va encore. Pour la radio, c'est...
Merci de faire
ta non, mais j'entends quand même, c'était juste pour déconner. J'entends bien.
Avant de découvrir le nouvel album de Jean-Michel Jarre, une interro pour savoir à quel point vous aussi.
C'est bientôt Noël.
À quel point vous connaissez Jean-Michel Jarre. Où Jean-Michel Jarre a-t-il trouvé ses premiers appareils électroniques?
Dans l'avion.
On lui a prêté,
pas loin.
Dans une poubelle, là.
Non.
À la décharge.
Dans une quoi?
Brocante, vide-grenier.
Ouais, mais non, je veux savoir à qui appartenaient ces appareils.
Ah.
Alors, ce sont des appareils de deuxième main, oui, mais à qui appartenaient-ils?
Marauder.
Pardon. Non. C'est pas un homme, c'est une institution.
Ah oui, le.
À l'harmonique, qui fait l'harmonique de Radio France.
Au conservatoire.
Non. À l'hôpital.
Oui, ça n'a pas de sens. C'est le début de l'émission. Ça n'a aucun sens. Ah ben vous savez, il vient de Belgique.
C'était une sorte d'hôpital.
Voilà. Merci.
Ah non, arrête.
Merci. On est comme ça. Les Invalides.
Eh oui.
Alors, ça peut avoir un rapport avec les Invalides.
Ah, c'est ça que je disais.
À l'armée.
Exactement.
Ça va, c'est pas comme si j'étais...
Stock de l'armée. Mais alors...
Mais c'est aux Invalides que c'est stocké, David.
Non,
c'est aux Invalides que c'est stocké.
C'est aux Invalides que c'est... D'où les stocks de l'armée ont des appareils électroniques et des machines à faire de la musique?
Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas d'où vient cette information.
Dans l'Express.
Moi, je suis d'accord avec vous, Jean-Michel.
Dans l'Express. Avec trois copains, j'ai monté un groupe de musique électronique avec des appareils misérabilistes, déclassés, des laboratoires récupérés dans les stocks de l'armée, des oscillateurs, des morceaux de radio bricolés.
Mais en fait, non. En fait, la réalité, c'est que c'est vrai que ce sont des appareils qui n'étaient pas faits, qui n'étaient pas destinés à la musique, mais qui venaient d'ici, de cette maison. C'est-à-dire qu'en fait, de la radio, c'est-à-dire qu'on ne dit pas assez à quel point la musique électronique doit énormément de choses aux radios publiques. C'est-à-dire que les oscillateurs et les filtres qu'on utilisait...
Il y a un musicien qui nous a piqué un iPad et un ordinateur il n'y a pas longtemps, donc il y a bientôt un album qui va sortir.
Bon, il faut qu'on parle pas en même temps, parce que sinon on va pas s'en
sortir. Bravo.
C'est pas possible, c'est vrai que j'ai commencé, j'étais bien lancé, c'est vrai.
C'est bizarre. Ça dure une heure et demie.
Non, mais Nadine n'entend pas non plus.
On commence à se faire cadrer.
C'est pas grave. Donc, je disais que ces appareils étaient au départ destinés à régler les émetteurs de cette maison.
D'accord.
Et qu'ils n'étaient pas du tout faits pour faire de la musique. C'était des appareils de maintenance et qu'on a détournés chez Pierre Schaeffer du groupe de recherche musicale qui a été créé ici. C'est-à-dire que les DJ d'aujourd'hui doivent tout à cette maison. Et aussi à la BBC et à la Radio Nationale Allemande, puisque les oscillateurs et tous les appareils qu'on a utilisés à cette époque-là venaient des radios publiques.
Il n'a pas fini, Nagui. Laissez-le repartir.
Il est KO, là.
Que fait Jean-Michel Jarre lorsqu'il reçoit un journaliste qui vient l'interviewer?
Du gainage.
Une douche.
Non,
ça, j'aime beaucoup, ça. J'ai pas pensé, mais ça donne
une proposition.
Pas de gainage.
Il se renseigne sur lui auparavant?
Il empêche de poser des questions.
Au contraire.
Il invite à déjeuner, à passer un moment un peu long.
Non.
Il fait l'amour.
Non. Ah, ça peut être, mais après. Mais que fait-il pendant l'interview?
Il mange.
Il regarde dans les yeux.
Il écoute de la musique.
Non.
Il sort de chez lui.
Il ne laisse pas poser de questions.
Il va faire les courses.
Si, il laisse poser des questions. Non, il fait pas de
courses. Il ne répond pas aux questions.
Si, il répond aux questions.
Il répond à la question d'avant.
Non, toi, non.
Il anticipe la question d'après.
Non, non plus.
Il l'invite à vacances.
Il lui fait écouter la musique d'abord.
Alors, c'est un rapport avec le son et ce qui se passe pendant l'interview.
Il lui met
un casque.
Non.
Il enregistre lui-même l'interview.
Exactement.
Ah.
Pour éviter que vos propos soient détournés.
Deux points.
Non, pas du tout, non. Non, c'est pas ça. Je l'ai fait une fois et ça a été répété, c'est tout. En fait, non, c'est, pour dire la vérité, je suis en train d'écrire un bouquin.
Vous avez dit, ça laisse une trace.
Quelquefois, on peut dire des choses intelligentes sans le savoir. Et donc, du coup, c'est toujours bien de pouvoir s'en rappeler.
Ouais. Tiens, vous voulez faire un livre, vous dites, ça laisse des traces, des entretiens pourraient me servir pour un livre.
Éventuellement.
D'accord. Très bien. Le grand-père de Jean-Michel Jarre était un véritable inventeur. Quel objet de la vie quotidienne a-t-il inventé,
le
imaginé?
Bus.
Non.
Le micro-ondes.
Le quoi?
Le micro-ondes.
Non.
La Belgique.
Un appareil tout ça.
Non, mais un truc utile.
Un truc utile.
Un truc utile. Autant pour moi, autant pour moi.
Quelque chose dont tu te sers tous les jours,
un
Daniel.
Rasoir.
Machine à café.
Daniel. Exactement.
Machine à café.
C'est pas vrai.
Le moulin à café électrique.
Non, c'est pas intéressant.
Électrique, d'accord.
C'est vrai, c'était un moulin à café, c'était ma... Il a inventé une chose dont beaucoup de nos parents, aux grands-parents, sont servis, c'est qu'il a inventé aussi le TEPAZ, c'est-à-dire le premier électrophone avec le haut-parleur dans le couvercle, avec les batteries incorporées, l'ancêtre de l'iPod, où on allait en pique-nique écouter les morceaux de Chet Baker ou de Edith Piaf.
Pourquoi, lors de son concert à la Concorde, Jean-Michel Jarre ne s'est pas rendu compte qu'il y avait 1 million
Brouillard.
De personnes? Non.
Fumigène.
Non.
La drogue.
Il avait une conjonctivite.
Alors, ça a un rapport avec les yeux, oui, évidemment.
Les lunettes étaient trop foncées.
Il avait des lunettes de soleil?
Il avait sans doute des lunettes.
Un spot dans la figure qui l'empêchait
tout
de voir.
Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant est vrai.
Oui.
Le bonnet est trop foncé.
Même la conjonctivite?
Même la conjonctivite.
Ah, ça, je savais pas. Non, mais lunettes. Si en plus je fais des vannes, on va s'en sortir.
Excuse-nous d'avoir un invité marrant, Dani.
Donc, non, vous aviez des lunettes, oui. Jean-Michel, vous aviez des lunettes.
Oui. J'avais des lunettes, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. D'accord. Il ne se rend pas compte, il y a 1 million de personnes.
C'est pas compté.
Il s'est pas compté.
C'était ça aussi.
C'est quand même pas compliqué de compter 1 million de personnes quand même. 764, 760.
Ah non, attends, t'as bougé, je recommence.
1, 2.
Pourquoi Jean-Michel?
Pourquoi je l'ai, oui, bien sûr.
Attends.
Parce qu'on a travaillé dur pour cette émission avec Nagui.
Oui.
Donc,
rappelez-vous de la date, de la période.
14 juillet. C'était en quelle année?
Oui, 14 juillet 79.
Ouais.
Je suis pas né.
Feu d'artifice.
Non.
Ah, on a manqué la peine non plus, Nagui.
Il avait des panzers devant.
L'anniversaire, le bicentenaire, il sait quoi, il y avait pas un truc.
Ah oui, la Tour Eiffel était.
Non, il est place de la Concorde. Ouais. Le soleil va se coucher.
Éclipse!
Mais non,
le soleil dans l'œil.
Exactement.
Mais on a dit qu'il avait ça.
À cause du reflet du soleil, vous voyez des taches noires.
En fait, il y avait l'ombre. Il y avait de l'ombre. Et tout le monde a cru qu'en fait, les taches noires qui étaient sur les Champs-Élysées, c'était l'ombre des immeubles. En fait, c'est des gens. Voilà.
Vous voyez plein.
Et l'autre chose aussi, que je dois dire, c'est comme j'étais coincé, j'ai eu une grosse envie de pisser. La seule façon.
De faire pipi.
Pas de toilette. Ouais. C'était d'ouvrir une plaque d'égout et de descendre avec un pompier. Et donc, du coup, à un moment donné, on n'a pas pu repartir. Ce qui aurait pu aussi ressortir. Ce qui aurait pu être aussi une raison pour laquelle je ne pouvais pas voir le public.
J'ai rien compris. Vous êtes descendu dans les égouts avec un pompier pour aller faire pipi?
Ouais. C'était la seule solution.
Qui jouait à ce moment-là?
Imaginez-vous.
Parce que le McDo, c'est pas à côté.
Forcément.
Mais en même temps, Nagui, qui n'a pas fait ça un jour, descendre faire pipi?
Non, mais je voulais le dire parce que c'est pas vrai. Tout le monde ne l'a pas fait.
Bah oui. Non, c'était une vague.
Non, c'est quelque chose
qui est arrivé. En plus, on comprend pas les règles, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi, cette émission.
Non, parce que devant l'obélisque, si vous voulez, si vous êtes entouré de gens et qu'il n'y a pas prévu, aucune toilette n'est prévue.
Un petit préfa.
Comment faites-vous? Vous ouvrez une plaque d'égout et vous descendez. C'est un bon tuyau, si je puis dire.
Pas mal. Nouvel album de Jean-Michel Jarre. Equinox Infinity. Clin d'œil évidemment à Equinox qui était sorti il y a 40 ans. Et vous dites c'est le second volet d'un diptyque, c'est le sequel ou le préquel. On en est où? C'est-à-dire on en est à la suite ou...
C'est pas vraiment la suite en fait. Bon là, c'est le moment sérieux de l'émission. Je dis ça surtout pour les gens qui sont avec nous dans le studio, donc écoutez-moi bien.
Oh, ils ont l'habitude.
Non, en fait, j'ai toujours été sérieusement tout à fait impressionné par la pochette que Michel Granger avait faite de ces créatures dont les gens peuvent se souvenir éventuellement, ces
sorte
créatures
d'hibou,
qui ces watchers, ces gens qui nous observent. Ouais. Et je me suis toujours demandé, au fond, qui étaient-ils et que sont-ils devenus? Et que deviendrait-il éventuellement dans le futur, cette espèce de créature un peu. Et donc du coup, pour la première fois, j'ai fait un album en partant de l'artwork, en partant du visuel de la pochette, et d'une certaine manière en faisant la bande son d'un scénario que je me suis imaginé, et en imaginant au fond deux futurs possibles dans lesquels ces Watchers ont un rôle. Et c'est la raison pour laquelle cet album sort avec deux pochettes différentes, le même album avec deux pochettes différentes.
On peut dire quoi, une pochette positive, une pochette négative.
Exactement.
Comment on peut la présenter?
Une pochette un peu apaisée et puis une autre plus dystopienne ou plus dystopique ou plus apocalyptique.
D'habitude, vous jouez de tous les instruments, toutes les la moindre note, la moindre rythmique, vous faites tout entièrement seul.
Là, je travaille avec. J'ai toujours quand même un ou deux musiciens avec qui je travaille depuis longtemps. Enfin, là, j'avais un peu renouvelé un peu les collaborations, mais en fait, oui. En fait, le travail des gens de l'électro, comme vous le savez, on travaille beaucoup plus comme des écrivains ou des peintres dans notre atelier, d'une manière assez solitaire en fait. Et c'est vrai que du coup c'est à la fois un luxe et ça a ses limites, parce que c'est bien aussi de se retrouver comme dans le rock ou dans le jazz avec des musiciens autour, mais c'est aussi un luxe de pouvoir travailler un peu comme on veut et de pouvoir fabriquer finalement ses propres sons. Et là, ce qu'on entend, c'est effectivement une partie un peu plus pop ou plus mélodique, et ce qui fait à mon avis l'intérêt de cet album, c'est que en fait cette bande son dont je parlais, je pense, convient aussi bien à une atmosphère plus bright et pop et lumineuse comme on l'entend là, et puis il y a des moments aussi un peu plus sombres et plus dark, et qui fait que je pense que l'album et l'accueil plutôt positif qu'il rencontre depuis quelques jours un peu partout correspond à cette idée aujourd'hui qui est assez, je pense, qui est assez qu'on ressent, où on est un peu à la croisée des chemins entre un avenir qu'on espère radieux mais qui peut aussi mal tourner, et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans cet album en fait.
Alors bizarrement, avec toutes ces machines, on a le sentiment que vous cherchez quand même à recréer des sons extrêmement naturels, voire organiques, le vent, la pluie, l'orage.
Oui, alors ce qui fait le lien avec Equinox ou Oxygène, ou en fait à cette époque, et bien sûr je le suis toujours, mais j'étais très impliqué dans les questions d'environnement à une époque où on triait pas tous nos poubelles.
On en parlait moins dans les années 70, voilà. C'est sûr.
Et j'ai toujours aimé cette rencontre entre les sons naturels qu'on peut enregistrer, puis les sons en même temps technologie. Je suis convaincu, comme nous tous, que on pourra survivre au 21e siècle seulement si on évolue en bonne intelligence, à la fois avec l'environnement et les nouvelles technologies. Et c'est un petit peu, ça a été vraiment ça la source d'inspiration, cet album. Donc c'est pas vraiment une suite, c'est plutôt, je dirais, un Equinox sous stéroïde, plutôt.
Et est-ce que vous avez réutilisé les machines que vous aviez utilisées pour Equinox?
Alors au départ, je me suis dit, je vais prendre exactement les mêmes instruments. Ouais. Et puis finalement, je me suis dit, si aujourd'hui j'avais 25 ans et que je fasse cet album, j'utiliserais pas nécessairement des instruments d'il y a 40 ans. Donc c'est vraiment un mélange entre les instruments de la première génération analogique et puis les instruments numériques. Il y a même des instruments que j'ai trouvés sur Kickstarter pendant que j'étais en train d'enregistrer et qui m'ont servi à faire le dernier morceau, par exemple.
Vous avez réécouté l'album d'il y a 40 ans?
Non, je me suis décidé dès le départ de ne pas l'écouter une seule fois.
Oui, vous l'avez en tête en tout cas.
Oui, je l'ai en tête, mais c'est ce que je voulais faire. C'est que je voulais le garder en tête, mais pas être influencé d'une manière ou d'une autre.
Parce que le souci, vous dites, vous êtes inspiré de ces Watchers. Moi, j'ai toujours imaginé que c'était comme des. Ça me donnait la notion de hibou, de chouette comme ça, qui observe dans la nuit à ce moment.
C'est un test très intéressant. D'ailleurs, quand on le montre sérieusement, comme les tests.
Oh là, les robots sont forts. Pardon. Je voulais juste mettre en ambiance. Pardon.
Et en fait, il y a des gens qui voient des oiseaux, il y a des gens qui voient des tombes aussi, il y a des gens qui voient... bon, moi j'ai toujours évidemment vu ce que Michel Granger avait fait, c'est-à-dire des gens qui vous observent d'une manière... des sortes de créatures, mais c'est vrai que ce mystère-là,
Big Brother, ouais, c'est ça. Ouais.
Alors ce qui est intéressant aussi, je fais une petite digression, c'est qu'en fait, le deuxième album, c'est toujours, comme vous le savez, l'album le plus difficile. Parce qu'en fait, il faut réussir l'essai après qu'on ait eu la chance qu'un premier album ait marché. Et en fait, tout le monde vous observe. Et je trouvais que c'était finalement, a posteriori, une image assez intéressante pour un deuxième album, d'avoir les gens qui vous attendent au tournant.
Equinox, il y a 40 ans, c'était ça. La mélodie à aucun moment, comme une espèce de gimmick lointain, ne revient sur cet album. On peut avoir, il y a l'ambiance, il y a par moments l'humeur.
Oui, mais c'est pour ça que je voulais pas faire. C'est pour ça que je voulais pas faire une suite.
C'était pas part tout.
Je suis vraiment parti de l'idée des visuels, avec cette idée qu'au fond ces personnages, pour moi, c'est un peu la technologie qui nous observe, qui apprend de nous depuis que j'ai commencé, au fond. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que, plus que jamais, on passe plus de temps souvent à regarder nos smartphones qu'à regarder notre partenaire ou notre famille, et quand, sans s'apercevoir aussi que cette technologie apprend de nous depuis longtemps, et qu'elle nous étudie pour mieux nous vendre des produits dont on n'a pas nécessairement besoin, qu'elle fouille notre vie privée, et que finalement tout ça, c'est l'aube de l'intelligence artificielle.
Alors,
et
c'est le paradoxe.
Ces personnages-là sont peut-être aussi des lanceurs d'alerte sur ce plan-là.
Mais oui, alors c'est le paradoxe, parce que vous êtes toujours à la pointe de la technologie, vous parlez d'intelligence artificielle en disant même que cette intelligence va finir par composer elle-même des morceaux, et vous êtes...
Faire des émissions de radio aussi.
Sûrement. Et vous êtes...
Ça a déjà commencé, vous savez qu'en Chine, il y a un animateur qui a remplacé l'animateur du 20h en Chine, et qui est le sosie du présentateur.
Donc un avatar, quoi.
Un avatar, oui.
Ouais.
Donc faites attention, je voulais juste...
je suis tellement remplaçable. Vous le savez qu'il y a...
S'il a la fonction escroc, l'ordinateur...
Vous savez... Je vais la poser, cette question, ou pas ?
Vas-y. Oh, vas-y.
Donc vous dites, vous vous servez de cette technologie, vous dites l'intelligence artificielle va finir par composer des morceaux, et j'ai lu dans une interview que vous déconnectiez toutes les machines chez vous pour ne pas être entendu ou vu par un ordinateur, par un micro, par les enceintes.
Enfin, je ne veux pas pousser la parano jusque-là, mais on sait de toute façon qu'aujourd'hui on est tous fichés, de toute façon, donc ça ne sert à rien de débrancher quoi que ce soit, c'est trop tard. Mais je pense surtout que aujourd'hui, il faut pas. On a toujours nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes.
Pardon, Jean-Michel, il y a des enceintes connectées maintenant à qui on parle. Je crois qu'il y a plusieurs marques qui font ça, entre les Apple, les Amazon, les Google et compagnie, voilà, les GAFA. On sait ces enceintes-là. Vous en avez une chez vous?
Oui, j'en ai une, mais je l'ai débranchée.
Voilà.
Effectivement. Ce qui est normal, je conseille de faire ça tout le monde. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est d'en prendre deux.
Pourquoi?
Et de les faire dialoguer. Dialoguer. Vous verrez ce qui se passe au bout de 3 jours, c'est assez intéressant.
Non, sans blaguer, ça fait
quoi? 3 jours?
Elles se parlent entre elles. Vous mettez deux enceintes, comme celle-ci, connectées.
C'est dingue.
Et vous les faites se parler. Vous verrez ce qu'elles se disent au bout de 2-3 jours, ce qui est assez intéressant.
Elles font des petites enceintes. Il y a des petits bébés qui arrivent.
Mais c'est ça, il faut attendre un peu plus longtemps, 3 jours.
Et elles se racontent quoi, au juste?
Non, mais c'est ça qui est très drôle, parce qu'elles se racontent n'importe quoi. C'est très très drôle de le faire. Et des étudiants américains qui ont commencé à faire ça, et c'est devenu un jeu sur Internet assez viral, où vous mettez deux enceintes qui se parlent, et évidemment, au bout de 2-3 jours, elles se disent des trucs démentiels. Ça vaut vraiment le coup de le faire.
Alors,
je vous conseille de le faire pour ceux qui en...
Vous avez cette paranoïa de dire ces enceintes écoutent ce qui se passe chez moi, donc je la déconnecte parce que je ne veux pas être espionné. Et de l'autre côté, vous êtes à la pointe de la technologie et vous dites même c'est elles qui vont venir par composer notre musique.
Non, mon cher Nagui, ça n'a rien à voir. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de nous parler et ce que vous me dites est très très important. Donc j'ai coupé mon smartphone. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de la technologie. Ça veut dire simplement qu'il y a un moment donné où on a envie de fermer la porte et d'être chez soi. Donc, de la même manière qu'on ferme la porte et qu'on n'accueille pas n'importe qui et n'importe quand chez soi, c'est exactement la même chose pour une enceinte. C'est-à-dire que si on en a besoin, on la branche. Si on n'a pas besoin, on la débranche, c'est tout.
Mais par exemple, vous cachez la caméra de votre ordinateur en disant « je ne veux pas
non,
que... »
Non, pas tous les jours, non.
Pas tous les jours.
Ah ouais, quand même.
Tom Villa, on est d'accord. C'est déjà un carton, c'est un succès. Jean-Michel Jarre, Equinox Infinity.
Eh ben oui, Jean-Michel Jarre, succès égal pléonasme quand même. Parmi les invités qu'on a reçus, vous en connaissez beaucoup des gens qui ont fait des spectacles à la Grande Muraille de Chine ou devant des pyramides d'Égypte. À part vous pour votre anniversaire, Nagui, mais je crois pas. Non mais c'est vrai. Jean-Michel, quand il fait un concert, il fait 1 million de spectateurs. Vous vous rendez compte, ça fait quand même 1 million de fois plus qu'un congrès de François Bayrou. Donc oui, Jean-Michel Jarre, c'est un succès et depuis le début. C'est-à-dire, on parle quand même d'un monsieur qui est rentré 4 fois au Guinness Book. Il est page 38 entre le mec qui gobe des flambis et le mec qui soulève des camions avec son nez. Mais c'est impressionnant quand même. Dans les années 70-80, il était considéré comme l'incarnation du futur, au même titre que les Bogdanov. Aujourd'hui, c'est fou, Jean-Michel. Il a 70 ans, il en fait 43. Les Bogdanov, ils ont 69 ans, ils font Rhinocéros. C'est fou la vie quand même. Non mais, 1976, Oxygène, premier album, succès mondial. Il est comme ça, Jean-Michel, il sort nulle part, bim, il devient une star, le Macron de la musique, on l'appelle. Alors, à l'époque, vous aviez 28 et vous devenez une référence mondiale de l'électro. Aujourd'hui, vous en avez 70 et vous êtes toujours une référence. David Guetta a dit de Jean-Michel Jarre qu'il était son père spirituel. Alors, autour de cette table, on est toujours contre ceux qui veulent interdire l'avortement, hein? C'est ça que... Non? Pas du tout?
Pourquoi
non.
tu parles de ça?
Non, non. Non mais c'est vrai, vous êtes un pionnier, Jean-Michel, vous avez inventé la harpe laser. Déjà, la harpe, c'est une galère à transporter, mais la harpe laser, dans un concert, ça de la gueule, mais dans un feu de camp, t'as pas fini de t'installer, tout le monde s'est déjà barré. Voilà. Non, mais moi, ce que je trouve génial avec Jean-Michel Jarre, c'est que la musique électro, c'est quand même un truc de jeune. Mais du coup, quand t'es un pionnier dans un truc, tu peux te permettre de continuer. Même quand t'es moins jeune, regardez Hugh Hefner, 90 ans, il était encore patron de Playboy, ça choquait personne, parce que c'est lui qui l'avait inventé. Alors qu'Emmanuel Macron, il a fait un dab cet été avec les joueurs de l'équipe de France, ça fait ringard, c'est fou. Et durer aussi longtemps dans un truc de jeune, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, il y a plein de gens, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on est jeune et qui deviennent ridicules quand on vieillit. Par exemple, je parle aux utilisateurs de trottinettes. La semaine dernière, je crois...
Ça devient dingue, en tout cas.
Terrible. Ça devient dingue. La semaine dernière, j'ai croisé un vieux en trottinette électrique. Il était ridicule. Il m'a dit, oh putain, va vite. Il s'était pété les dents sur un trottoir. Je lui ai dit à Nagui, mais descends de là, ça n'a aucun sens. Non, bon, en tout cas, non, mais un autre exemple. Les emojis dans les textos. Ma mère, elle a découvert ça récemment. Avant, ces messages, c'était simple, basique. Bonjour, mon chéri, tu viens manger dimanche. Maintenant, il y a plus d'emojis que de mots. C'est plus un SMS, c'est un rébus. En plus, elle a pas tout à fait l'école. La fois dernière, je te jure que c'est vrai, elle m'envoie aubergine, pêche-feu. Je me suis dit, oh putain, merde, il y a ma mère qui veut me pêche-feu, c'est dégueulasse. Et en fait, non, elle était juste au marché, elle voulait savoir si je voulais des fruits et légumes. Donc en fait, la clé de tout ça, c'est d'être le pionnier dans son domaine. Et pour ça, on a quand même le pionnier de la musique électro, et ça a vraiment de la gueule. Demain, c'est qui l'invité?
Je sais plus. Tu sais,
On dit Florent Père.
C'est Florent Père, oui.
Ouais, ça va être difficile de faire mieux, c'est pour ça.
Allez, bonne émission.
J'adore Infinity, pardon, hein, mais sur l'album, c'est le titre que j'ai envie d'écouter en boucle, parce que, à votre avis, pourquoi? C'est celui qui est le plus proche d'Equinox, ou c'est celui qui est le plus pop, le plus souriant?
Le plus pop.
Le plus lumineux,
On a envie d'être sur la plage l'été, d'avoir un petit verre de rosé, de danser en...
Oui, ce qui est un vrai fantasme aujourd'hui, hein, quand même.
D'être sur la plage?
Je parle d'aujourd'hui.
Ah oui, là, aujourd'hui, oui.
Vous êtes plutôt de nature optimiste ou pessimiste, vous, d'ailleurs? Au quotidien,
je dirais optimiste par subversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous apprend génération après génération que hier c'était mieux, demain ça sera pire. Mais finalement, si ça avait été vrai, on serait pas là en train de se parler. Il faut pas oublier quand même qu'il y a 200 ans, on avait une espérance de vie de 40 ans, on pouvait mourir d'un rhume, qu'on n'avait pas d'antibiotiques. Donc aujourd'hui, je serais mort, par exemple. J'ai pris des antibiotiques ce matin.
Enrhumé,
et voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut ce côté anxiogène qui est effectivement diffusé par les chaînes de télé continue dans le monde entier, tout ce qu'on nous donne, cette espèce de vision apocalyptique ou inquiétante du futur. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on le soit. Par exemple, on parlait de l'intelligence artificielle. Effectivement, dans une dizaine d'années, il faut savoir que probablement des algorithmes sont capables de composer de la musique de manière originale, de faire des films de manière originale, de raconter des histoires. Et c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Il faudra qu'on se repositionne comme on l'a fait au début du cinéma.
Mais ce sont des hommes qui auront programmé ces machines quand
exactement.
Même.
Exactement. Donc de toute façon, ça changera les choses et pas nécessairement
le
vers
problème,
le pire.
C'est ça que je veux dire. Ça va créer ça peut créer d'autres emplois, mais ça va surtout en supprimer aussi, parce que ça fait des musiciens
mais
en moins.
C'est comme la révolution industrielle, c'est comme toutes les étapes de l'humanité où il y a eu des moments où effectivement il y a eu des révolutions qui se sont passées sur le plan technologique, et l'intelligence artificielle sera est en train de devenir une révolution plus importante même que celle de l'ordinateur. parce qu'elle va, elle va vraiment changer énormément de choses. Et donc, forcément, il va y avoir une mutation et des moments difficiles qu'on connaît en ce moment, d'ailleurs.
C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, vous pensez que les voitures rouleront sans personne à leur volant, que la musique sera...
Bah, ça a commencé, ça, déjà. Oui. Ça, c'est déjà le présent.
Chut, ne lui dites pas tout. C'est pas...
On essaye de le préserver,
mais pas de manière massive.
Voilà,
donc,
non, mais c'est ça, pas, ça, c'est ça, pas, ça va aller très rapidement. D'ailleurs, le patron d'Uber a annoncé déjà depuis le mois dernier qu'il il est en train de mettre au point les voitures à décollage vertical, ce qu'on voit dans le cinquième élément ou autre. On y est, tout ça. Et ce que je trouve, au-delà de tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, il y avait cette espèce de vision poétique du futur. Mmh. On se disait, après l'an 2000, les voitures voleront, le système éducatif, social sera parfait. On a été assez déçus après le non-bug de l'an 2000.
Oui,
mais finalement, après l'an 2000, on a eu cette espèce de vision plus anxiogène du futur. On a rétréci notre vision en se disant, est-ce qu'on va survivre sur notre planète polluée, etc. Et c'est depuis quelques années qu'il y a une sorte de retour vers le futur, au fond, et que avec des films comme Interstellar, comme Gravity, comme Ghost in the Shell, etc., et aussi des gens comme Elon Musk qui se disent, on va aller coloniser la Lune, on va aller explorer Mars.
Il y a cette espèce de Tesla.
D'appétit qui revient, ou d'optimisme d'aller explorer le futur. Et c'est marrant que... Enfin, moi, j'ai vécu la fin du XXe siècle comme un début de siècle, un début d'ère,
ouais.
Le début du 21e siècle comme une fin de siècle, comme une fin d'ère, où les gens se recroquevillaient sur eux-mêmes, et je trouve que ça change aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans faire d'amalgame idiot, je pense que le phénomène des gilets jaunes est très positif dans ce cas-là. Moi, je voudrais simplement dire que je suis très très fier d'être français. Je suis parti aux États-Unis la semaine dernière, je vous dis ça deux secondes.
Allez-y.
Et il y a cette espèce de cynisme ambiant aux États-Unis de dire les Français sont ingouvernables, dès qu'on veut réformer, etc., c'est des choses qui...
Les
Gaulois réfractaires, etc. Or, c'est faux. Je veux dire qu'on peut être fier d'être français parce que le malaise des gilets jaunes, c'est pas seulement un malaise par rapport à la France et à Macron. C'est un malaise qu'on retrouve en Pologne, en Italie, en Allemagne, partout. C'est-à-dire le fait qu'il y a un pays qui, traditionnellement, depuis la Révolution, mai 68, la résistance contre les nazis, on est un peuple qui sait dire stop quand des choses ne vont pas. Et je trouve qu'on doit être fier de ce mouvement de manière générale, et je pense que ce que disent les gilets jaunes, ils le disent pas seulement à la France, mais ils le disent au monde entier. Et je pense que c'est une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, et je suis heureux d'avoir l'occasion de le dire.
The Opening fait partie de cet album Equinox Infinity que Jean-Michel Jarre est venu nous présenter. Voici Guillermo Guiz.
Ça va les amigos?
Oui.
Yes. Alors comme vous le savez, on le disait justement, l'actu en ce moment, ça donne un peu envie de crever dans le zip d'un kawaii avec Evelyne Devia qui dit « Va pleuvoir toute ta vie, fils de pute !» Alors Evelyne, qu'est-ce qui vous arrive? Rangez-moi ce pieu, hein. Il n'y a pas d'Evelyne, Ernesto del Fuego, del Carpaccio, del Pulpo. La vie, c'est une tartine de gras dans un restaurant du Luxembourg, mon pote, c'est ça la vie. Ah, le communisme, Evelyne, vous n'êtes plus la même personne. Du coup, tant bien que mal... J'ai écumé les informations populaires à la recherche d'une bonne nouvelle, les amis. Et oui, et je crois que j'ai trouvé, bande d'ovules. Eh bien, si je vous dis 1,6 milliard, vous me dites oui, le budget Poppers de Leila pendant les Francopholies de La Rochelle. Et c'est bien que vous soyez attentifs. Croyez bien que ça me touche. Mais non, 1,6 milliard, c'est le nombre d'écoutes en streaming de Bohemian Rhapsody en fait.
Ouais.
Qui est désormais officiellement la chanson du 20e siècle la plus écoutée au monde, juste derrière la
Mamma Mia, Mamma Mia,
Mamma Mia,
Mamma Mia, Let Me Go.
C'est la plus écoutée.
Oui.
Mais faites toute la chanson,
elle est longue, elle fait 7 minutes. Ouais.
D'un seul coup, c'est la moins écoutée.
Mais oui, juste avant, c'était, elle a détrôné donc la Zoubida de la gaffe, qui n'est pas vraiment une chanson, ceci dit, qui est plus une ode à l'Afrique du Nord. Quand ils faisaient Zoubida, enfin tu vois, il y avait un côté, on les taquine, mais on les aime quand même bien, les Arabes. Et bon, Bohemian Rhapsody, ça n'a pas la même ambition, mais je trouve que c'est quand même réjouissant de savoir qu'une chanson aussi exigeante et singulière soit l'un des hymnes de Sapiens Sapiens, finalement, non? Quelque part, c'est réjouissant, bah. Ah, ça se demandait pourquoi Nagui n'a jamais invité Queen dans Taratata. Ah, évidemment, bah oui, quand c'est pour faire Benabar.
Quand
c'est pour faire Benabar featuring Marc Villalonga. Alors ça, oui, il y a du monde, évidemment. Allez, vous allez voir, ils ont revisité Imagine avec un accordéon et une soupière, ça dépote, hein. Eh, faites du bruit. Ça, oui, ça, on sait le faire. Mais Queen, c'est la bande originale de mon enfance, vous savez que je les ai vus en concert, moi, Queen, vraiment. Et ouais, à Bruxelles avec mon père quand j'avais 4 ans. Et c'était... Je me rappelle de rien. Franchement, vraiment, mes premiers souvenirs datent de 2007. Moi, j'ai plus ou moins la même mémoire que Renaud, je pense. C'est vraiment, c'est. Ouais. Vu ce que je picole, mes neurones, ils me font, mec, soit t'en souviens, soit ton produit. Mais on peut pas faire les deux en même temps. Tu vois, vraiment, mange des carottes, on en reparle. Mais c'est vrai que Freddie Mercury, c'était mon idole quand j'étais petit. Il est mort le lendemain de mes 10 ans. J'étais vraiment, mais dévasté, quoi. Je voulais tout faire comme Freddie, moi. Bon, comme j'ai pas une très très belle voix, alors j'ai essayé d'avoir le sida. Mais c'était compliqué. C'était compliqué à 10 ans. C'était quand je disais aux filles, viens, on fait l'amour sans préservatif. Elle me disait, mais laisse-nous faire notre puberté. Bah, tu vois, il y a un truc. Vraiment, j'ai marché sur des seringues, je me baladais avec une pancarte free transfusion, etc. Enfin, tu vois, j'ai essayé de rencontrer Clémentine Salarié, tu vois, je mélangeais tout, j'étais petit, je comprenais rien. Enfin, c'est pas possible. Mais si je monte sur scène aujourd'hui, c'est aussi grâce à Freddy. Quel charisme, quoi. Ouais. Quelle présence. Toute ma vie, je regretterais qu'il soit mort avant mon mariage, quoi. Vraiment, Freddy, c'est typiquement le genre de mec qui aurait pu animer la soirée, quoi. Enfin, tu, vois, ouais, tu lui donnes un baffle, un micro, tu lui dis, vas-y, prends ce que tu veux dans le buffet, Freddy, tu vois. Touche pas au saumon, mais il te met un feu. C'est vrai. Comme Freddy, moi, j'ai pris un pseudo, par exemple. Moi, mon vrai nom, c'est pas Guillermo Guise, c'est Thierry Olgado. Et je fais un bisou à Tiki. Tiki, mon frère, tu vois, t'es là, je pense à toi. Et puis, c'était un perfectionniste, Freddy. Rien que les Galiléo, quand vous
Galiléo
Magnifico.
Ils ont mis 3 semaines à les peaufiner. 3 semaines dans une ferme, vraiment, bah, les chefs-d'œuvre, c'est du boulot. Regardez cette chronique, par exemple.
Ils l'ont jamais chanté en live, Bohemian Rhapsody.
Mais pour ça, justement, ouais. C'est compliqué. Ils faisaient un playback, etc. C'est chouette, en tout cas, cette chronique, c'est bien parce qu'on n'est pas interrompu. Ouais,
ouais. C'est interactif.
C'est pas compliqué, Jean-Michel.
Donc, je disais, oui, forcément, les chefs-d'œuvre.
Message, j'ai rien dit.
Ouais. Vous avez été bien.
Moi, je disais, voilà, les chefs-d'œuvre, c'est du boulot. Quoi. Regardez cette chronique, par exemple, je l'ai écrite hier entre 17 et 19h30. À un moment, il n'y a pas de secret. Tu vois, c'est clair, si j'étais resté 3 semaines dans une ferme avec Daniel, enfin, avec Daniel Morin, j'allais dire, c'est un mauvais exemple. On ne reste pas 3 semaines dans une ferme avec Daniel. À un moment, il y a du respect pour les animaux. Tu vois, il y a un truc, mais c'est vrai que j'aurais pu peaufiner. Quoi. Au lieu de ça, je suis allé voir Bohemian Rhapsody au cinéma et j'ai chialé tout le film. Ah, ouais, tellement ça puait mon enfance parce que j'avais de l'espoir quand j'étais un môme. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Elle avait raison, Evelyne Delia. Merci d'avoir rigolé.
Merci.
Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity.
J'adore, j'adore. Ce qui est drôle aussi, il faut rajouter, c'est que quand le morceau est sorti, la maison de disques a dit non, il est trop long, ça ne passera jamais à la radio, les radios n'ont pas voulu diffuser. Puis un jour, une radio, un DJ l'a passé et c'est devenu.
Voilà, ouais, parce qu'il a dit, il a teasé en disant il faut surtout pas passer la chanson, etc. Et l'autre, c'est son pote, il a dit ok, on la passe pas. Ils ont joué là-dessus et puis ça a décollé.
Exact.
Et à défaut de voir Freddie Mercury, on peut voir Guillermo Guise au Bataclan.
Merci.
Le 27, 28 et 29 décembre.
Parfait.
Ouais. Il aura la moustache.
Parfait. Dans l'émission, rappelez-vous. Elle s'appelle LP, tout simplement, c'est 2 lettres. LP comme un album. Eh bien, son nouvel album arrive. Il va du cœur jusqu'à la bouche. Heart to Mouth est le titre de son nouvel album. Et le premier extrait qu'elle nous propose en live s'appelle Recovery. Elle est en live dans la bande originale. LP.
Dark, the blinds are shut tight, and everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see I'm in recovery? Just let it be. Baby, please leave me alone.
Avec ce titre Recovery, j'adore la douceur, la voix, la sensibilité. Can't you see I'm in recovery? And now we understand why it's from heart to mouth. Maintenant on comprend pourquoi c'est du cœur jusqu'à la bouche, jusqu'à ce qu'elle chante. Seemed like this. This song is like truly what happened in your life. On a vraiment l'impression que ce qui se passe dans cette chanson, c'est sa vraie vie.
It did, for sure. It's like a very, it's you know, no excuses, but it's difficult to sing live. It feels like, you know, instant crying scene in a movie or something, you know.
Voilà, elle dit que c'est difficile de chanter comme ça en live. C'est comme si on demandait dans un claquement de doigts de pleurer au cinéma immédiatement et d'être, it's like just being nude. C'est comme si on lui demandait de se déshabiller.
I usually do it in the nude, actually, voilà. So I spared you that today.
J'espérais qu'on le fasse aussi. Bon, because this album is truly what happened in your life. Cet album me raconte vraiment ce qui se passe dans sa vie.
It was actually, it was me writing from an ex's perspective at first. That's when I wrote it, from her side. And then I went through it myself on the other side of it. That's why I felt like I was able to include it on a record. Now it felt like it was more authentic. I had seen both sides of it, and because the song was around for a little while.
T'as compris quoi, Daniel?
Déjà, elle a écrit se mettant dans la position d'un ex et après dans sa position à elle pour avoir les deux parties qui se rejoignent et être au plus juste possible.
Authentique. Wow,
comment ça calme.
Bravo, Daniel.
Je pensais t'avoir, genre t'as pas écouté et t'as pas suivi. En fait, tu buvais ses paroles.
Complètement.
Mais c'est parfait. C'est exactement ça. Sur l'album, il y a également Dreamcatcher. Have you done everything on your own? Est-ce qu'elle a tout fait toute seule sur cet album?
On my own, no. I had the collaborators and an amazing producer.
The same one like Lost
yeah,
on You?
Yeah, the same one from Lost on You.
Donc elle a gardé son équipe de qu'elle avait déjà sur Lost on You, Mike Del Rio.
Yes.
Voilà, toujours ce producteur qui est pas mauvais en même temps parce qu'il a bossé aussi avec Eminem. Ça peut aussi aider pour savoir avec qui on travaille. Sur cet album, il y a un titre bien fort qu'elle chantera tout à l'heure. Avec cette voix forte, cette voix incroyable qui donne la chair de poule. In fact, you use your voice like an instrument. Elle se sert de sa voix comme un instrument. It could be just powerful. It could be like a velvet.
Oh,
ça peut être doux comme du velours, au contraire très puissante.
Thank you. I try. I work at that. You know, I like you know, a lot of different, like a landscape for a record, you know, so it's like everything's, you know, up and down. It's like me, I'm very pendulous.
And you're very up and down too.
Yes.
Donc elle voit ça comme une sorte de paysage où il peut y avoir aussi bien des plaines que des montagnes avec des hauts et des bas, comme ça peut être aussi dans son humeur, dans son caractère. Has to be a single. Ça doit être un single.
That's a really fun song.
Shaken. Yeah.
Yeah.
It's really fun to do. All the songs are talking about love, a fair love story, and sometimes it's up, sometimes it's down too, in the love.
I had someone. I think people ask me about political songs sometimes. Well, are you ever going to write a political? As if like you know, romantic songs are like some kind of like. Well, I mean, you know, you can write a romantic song. It's good.
Voilà, donc like, elle reste dans les chansons d'amour et on lui demande souvent est-ce qu'elle va chanter des chansons plus politiques, plus engagées. Et elle dit non, c'est bon, on va rester dans. Well, you know, sometimes House on Fire could be a political song.
There you go.
It could be White House on Fire.
Oh my god. It's about to happen.
Musics and lyrics, everything is based on emotions.
Yeah,
tout est basé sur les émotions, oui.
I think that's what music, you know, that's my experience with music. Music is a very visceral, emotional experience for me. And I think that's what's, you know, really grabbed me from the start with music. So I think that's how I express it. And, you know, there were actually a couple songs that were, you know, not as relationship involved, that just weren't ready. You know, I've been like on tour a lot, so, you know, when me and Mike can...
They're not on the album. All the album are on emotions.
I feel like I had like a double record practically ready to go.
Elle avait pratiquement un double album qui était prêt à sortir.
I just had to kind of pick what was, you know...
Et elle a choisi le thème, tout est autour de l'amour. Qu'est-ce que j'aime cette voix? T'en penses, Jean-Michel, parce que tu as travaillé aussi.
It's great.
Ah, oh, thank you very much.
Congratulations. I love your voice.
Thank you so much. I appreciate
that. I knew
that.
It before this morning, actually.
Well, that was no great show, I'll tell you what. So thank you. I'm glad.
I know how difficult it is to perform in these kind of conditions and
in the morning. Thank you. Il faut rappeler quand même que le matin, c'est pas non plus évident à 11h du matin.
Ah, you guys understand.
Oui,
yeah. Yeah. Merci beaucoup.
We all understand.
On la comprend et on l'aime. Elle sera. When do you plan to tour? I was expecting you touring in France.
I will
early
be in
January.
France. I'll be in May.
Ah, ça sera en mai. En mai, elle sera.
I think it's like May 16, 14, something like that.
Cool.
Le Sénégal.
You'll tell me.
I'll tell you.
Elle nous le dira et on l'annoncera. Elle revient dans cette émission et pour nous offrir une reprise dans quelques instants des Kings of Leon et puis également un nouveau titre de son album. L'album, lui, s'appelle Heart to Mouth, c'est-à-dire du cœur à la bouche.
Et, how do you say it again? Say it again, because I heard that if I pronounce it wrong.
Du cœur à la bouche.
I heard that if you say
but
the
you know
cœur
what?
Wrong, it's very scary. Right.
No, du cœur à la bouche. Mais, but du when cœur. You say that in French, it's so sexy.
Is it?
Yeah,
du cœur
it is.
À la bouche.
Oh. Wow. LP.
La bande originale. Nagui sur France Inter.
Justement, la musique de Jean-Michel Jarre, celle qu'il compose, mais aussi celle qu'il écoute. Par exemple, en 68, il écoutait... Et là, on reparle de Pierre Schaeffer.
Oui, alors, j'ai choisi exprès ce morceau pour faire plaisir aux programmateurs de France Inter, parce que si à l'époque, ils avaient dû programmer une chanson, je pense qu'ils auraient programmé celle-là.
Pourquoi ?
Parce qu'elle était totalement underground et qu'elle allait bien avec la philosophie de la programmation de France Inter, je pense. et je pense que...
Vous voulez dire qu'ils évitent le mainstream à France Inter ?
Bah, au-delà de 3000 exemplaires, oui. mais
sauf entre 11h et midi et demi.
Exactement.
Voilà, exactement.
Mais non, tout ça pour dire que ce morceau est un morceau vraiment fondateur de l'électro, qu'on connaît peu. D'ailleurs, je pense que même certains programmateurs ne la connaissent pas.
Oui.
Et c'est une femme qui s'appelle Delia Derbyshire qui a été très connue pour la musique de Doctor Who qu'elle avait faite. Et en fait, c'est un morceau qui pourrait sortir aujourd'hui et qui serait totalement, qui avait vraiment 40 ou 50 ans d'avance.
Mais qui est même déjà avant-gardiste, pardon.
Exactement, mais totalement avant-gardiste, évidemment.
Mais encore aujourd'hui, je veux dire.
Totalement avant-gardiste, encore aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Mais qui a en même temps un côté très pop et très accessible. Mais je voudrais simplement dire très vite que 68, ça a quand même été une année extraordinaire musicalement. Quand on pense On the Road Again, La Cavalerie, Initials BB, Hey Jude,
Et vous faisiez quoi, vous, à ce moment-là?
Moi, je faisais de la musique,
mon premier disque, qui s'appelle La Cage, qui a vendu 117 exemplaires, mais qui a compté quand même cette année. Extrêmement important.
Et ça passait pas sur Inter, même avec 117 exemplaires?
Non, parce qu'à cette époque-là, c'était. je pense que c'est pas arrivé jusqu'à la maison de la radio, sinon ça aurait été joué jour et nuit, je pense.
Bah, évidemment.
Et comment vous avez traversé mai 68, vous?
À pied?
Ah bah, comme beaucoup d'autres, oui. Je voudrais simplement faire une petite parenthèse. Je voudrais que les gens qui me connaissent arrêtent de m'envoyer des messages pour me dire que je passe sur France Inter parce que je le sais.
Voilà, parenthèse refermée.
Ceci étant dit,
mai 68,
je l'ai vécu de manière extrêmement. J'étais évidemment, quand on a 20 ans en 68, on le vit forcément bien. C'est-à-dire que c'était l'époque en pleine où on se rebellait contre tout, et c'était effectivement une occasion, notamment puisque je l'ai vécu ici, en fait, puisque j'étais moi chez au groupe de recherche musicale, donc ici à deux pas de la maison de la radio, et que de rentrer dans la musique électronique, électroacoustique à cette époque, c'était une manière idéale de se rebeller contre l'establishment du classique, mais aussi contre l'establishment du rock qui existait déjà. C'est amusant de voir que chaque nouveau mouvement génère une condescendance de ce qui a précédé. C'est-à-dire quand le jazz arrive, la musique classique rejette le jazz en disant qu'est-ce que c'est que cette musique. Quand le rock arrive, vous m'envoyez pas de message, j'espère.
Si, je viens t'envoyer une photo pour te prouver que tu es vraiment à la radio.
C'est gentil. Quand le rock arrive, c'est une musique qui est rejetée par le jazz. Quand l'électro arrive, c'est une musique qui est rejetée par le rock, ce qui était le cas en 68. Et donc je l'ai vécu comme ça. Et puis j'ai vécu très rapidement aussi d'une manière singulière quand on était à l'Odéon où en fait on était tous pour effectivement un changement, mais moi j'ai été très attristé de voir à quel point n'importe quelle foule peut être bête et que les décors de Cocteau, de Picasso, de Jean-Louis Barrault, etc., qui ont été détruits. Je veux dire que c'était pas nécessairement les plus réactionnaires de ceux que je viens de citer, donc c'était quelque chose qui était désagréable et qu'on voit beaucoup malheureusement dans les mouvements de foule.
Voilà, et on rejoint malheureusement ce que vous disiez avec les gilets jaunes. Il y a les bonnes causes, il y a les vraies raisons et les vrais motifs de se plaindre et de réagir. Et puis, il y a ceux qui profitent de la foule.
Exactement.
Pour casser, pour le plaisir de casser.
D'ailleurs, exactement, et c'est intemporel, malheureusement.
Si vous avez vu sur Internet, il y a un journaliste, je crois que c'est Brut, ou je suis pas sûr, à moins que vous ayez vu cette image ou pas. Il y a un casseur qui démonte une vitrine et qui va piquer des trucs, mais juste pour donner des coups de pied dedans et qui les jette dans la rue. Il y a un journaliste qui s'approche de lui, il fait: pourquoi vous faites ça? Il dit: ouais, il y en a marre, on va tout casser. Et il lui dit: mais vous faites quoi? Il dit: bah, moi je travaille, j'ai pas de loyer, hein, je vis chez mes parents, tout va bien, mais voilà, j'avais envie de casser. Ça rend particulièrement. Il avait aucune autre motivation que de casser.
Oui, alors la seule chose que je voudrais dire quand même, c'est que 68, la grande différence, c'est qu'il y a eu ce genre d'abus, mais il n'y a pas eu par exemple de casse du tout. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des manifs sur les Champs-Élysées, il n'y a pas eu de pillage du tout. C'était quand même une autre atmosphère.
Mais il y avait déjà des pavés quand même qui volaient.
Volaient pas pour aller piquer des smartphones, surtout qu'ils n'existaient pas à cette époque-là, c'est peut-être la raison.
Ça aurait été très, très, très avant-gardiste. En 73... Angel, angel, when will those clouds all disappear? Alors oui, il y avait les Rolling Stones, mais il y avait aussi ce que vous aviez écrit. J'ai bien dit écrit, parce que là, vous ne vous êtes pas occupé de la musique, mais des paroles.
Oui, je voulais pas le dire, parce que ça aurait été prétentieux, sinon j'ai préféré choisir Angie que les mots bleus.
Non, bah, c'est nous.
Bien que quand
même,
je pense que ça tient la route.
C'est nous qui avons choisi Angie, les mots bleus, chanson tellement culte.
Ouais, c'est merveilleux, les paradis perdus, les mots bleus. Je crois que vous commettez à ce moment-là deux albums qui sont juste à tomber par terre, en fait.
En fait, c'était l'idée à cette époque. Moi, j'étais très influencé par les concepts albums anglais. Mm-hmm. Et en fait, quand je me suis retrouvé en studio avec Christophe, on a eu envie de faire ça. Et en fait, on a travaillé trois mois, je suis en train de casser le matériel, c'est tout. Mais ça va.
Côté 68 heures.
Voilà. Et donc en fait, non, on avait envie de faire ça. Et on s'est enfermé pendant trois mois au studio Ferber. Et on a fait cet album ensemble au niveau des sons, à tous les niveaux. Et puis, on cherchait justement à mettre des paroles sur le son. Et on n'a pas trouvé de parolier, donc je m'y suis collé, en fait. Comment ?
Par défaut, vous êtes mis à écrire par défaut.
Et ça a été.
Mais pourquoi vous n'avez pas continué ?
Ouais, c'est ça quand on écrit les mots bleus.
À cause de ça, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était plus le son que les mots, même si moi j'ai toujours aimé les mots et que j'aime écrire. Mais c'est quelque chose qui m'a. Il faut trouver, c'est l'occasion qui fait le larron, je dirais. Après, j'ai continué à travailler et à produire aussi avec Patrick Juvet, où sont les femmes, etc. Ouais. Où j'ai eu la chance de travailler avec les musiciens d'Herbie Hancock. Je suis parti aux États-Unis pour produire les albums, avec Françoise Hardy, etc. Mais après, j'ai été pris dans ma propre carrière. Et vu l'état de ma voix, là, aujourd'hui, vous voyez ce que c'est à peu près l'état normal, en gros. Je me suis dit, je préfère ne pas mettre de voix sur mes albums, en fait.
Mais je le ferai peut-être une fois.
Si jamais les antibiotiques donnent un bon résultat, ouais, peut-être que je le ferai dans une troisième.
On va en parler dans quelques instants. Retour dans cette émission de LP. Sur l'album, il y a Shaken, il y a Recovery. Il y a aussi Girls Go Wild. Et elle sera le 5 mai à La Cigale en concert à Paris, mais elle est déjà dans les studios de France Inter avec ce titre Sex on Fire de Kings of Leon LP.
Oh,
LP avec ses titres Sex on Fire, The Kings of Leon. Elle reviendra tout à l'heure avec Girls Go Wild. Juste après les infos, Tanguy Pastureau sera avec nous. Il nous emmènera aux Antilles, mais ça sera dans quelques secondes. Nous rejoignez avec Lila Cadebou, Daniel Morin,
ouais,
Tom Villa, Guillermo Guise, Tanguy Pastureau. En live tout à l'heure, LP et notre invité est Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre avec un nouvel album. Sur cet album, il y a ce titre. Infinity. On parlait justement des concerts que vous aviez pu donner, que ce soit sur la place de la Concorde, que ce soit Muraille de Chine ou Pyramide en Égypte. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez d'ailleurs des envies, des projets de donner une dimension réelle ou irréelle à cet album Equinox Infinity?
Voilà, je viens de terminer une tournée de 250 concerts à peu près, qui se termine à Coachella de manière super, il y a quelques mois.
Avec cet album, avec cet album déjà ?
Non, puisqu'il il vient de sortir, mais je pense que je referai des concerts, une tournée d'ici un an à peu près, ce que je vais prendre. Mais j'ai fait un concert, puisqu'on parle des concerts, rapidement, j'ai fait un concert il y a deux mois en Arabie Saoudite. Je voulais en dire quelques mots, parce que c'était un moment très historique et très touchant, puisque c'est pour la première fois, c'est un concert en extérieur, ouais, où les femmes et les hommes étaient mélangés, et de voir les femmes pouvoir danser, taper des mains pour la première fois, était quelque chose d'extrêmement émouvant.
Et je pense c'est émouvant et triste à la fois. C'est-à-dire que c'est triste que ce soit.
C'est bien que
ça arrive et c'est triste que ce soit un événement.
Voilà, voilà. Exactement.
Mais hommes habillés en femmes d'ailleurs. Mais
comme la population, 50% de la population a moins de 30 ans, je pense que c'est important d'aller dans ces endroits-là. Et je pense que moi je suis contre toute forme de boycott et je pense qu'il faut aller dans ces pays-là. Sinon, si des gens qui n'ont pas la même vie que la nôtre, en plus, on leur applique une double peine en les privant de musique, de cinéma.
Ça serait une forme d'abandon, vous voulez dire, si on n'y va pas.
Oui, je pense que c'est même plus que ça. Je pense que c'est collaborer d'une certaine manière à la radicalisation, à l'aliénation de ne pas y aller. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller en Iran, il faut aller en Corée du Nord, il faut aller dans ces pays-là, que les agendas des artistes et des politiques sont pas les mêmes. Je pense que les politiques peuvent prendre des mesures contre des régimes, mais qu'il faut faire mais que nous, artistes, on s'adresse aux gens et qu'il faut faire une différence entre une idéologie et un peuple et qu'il faut pas appliquer de double peine.
Vous n'avez pas peur de récupération? De tentative de récupération du pouvoir.
Non, il faut jamais avoir peur de récupération.
C'est-à-dire que si le pouvoir est présent et vous accueille et vous introduit, est-ce que ça, c'est pas problématique?
Non, parce qu'au contraire, je pense que à partir du moment où on y est, c'est aux gens qu'on s'adresse. Tant pis, prenez le risque de vous faire récupérer. Il vaut mieux y aller que ne pas y aller, parce que de ne pas y aller, c'est du coup le régime qui récupère tout.
Mm-hmm. On va continuer de parler avec Jean-Michel Jarre, qui est notre invité, et accueillir aussi LP pour un nouveau titre en live. Mais tout de suite, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, vous aimez comme nous tous les Antilles.
Oui, je les adore, d'autant plus que j'y suis jamais allé. Donc on adore toujours ce qu'on ne connaît pas jusqu'à ce qu'on le connaisse. Regardez la sodomie. Moi, les Antilles, ça m'a toujours fait rêver. Quand j'étais gosse, je regardais les clips de Philippe Laville en me disant « C'est comme le clip de Thriller de Jackson, il y a des zombies. » En fait, il s'agissait de mecs en arrière-plan défoncés aux planteurs qui zigzaguaient sur la plage. Puis j'ai vu les documentaires d'Antoine, cet homme qui, à cause de ses poils, ressemble à un furby. Si bien que les gosses viennent le caresser et qui doit les repousser en criant des trucs effrayants comme « C'est un déguisement, en fait, je suis Martine Aubry ». Philippe Laville, Antoine, je me disais « Ils me ressemblent, les Antillais ». Puis j'ai réalisé que là-bas, il y avait aussi des Noirs. Donc je me suis dit « C'est exactement comme en Île-de-France. Ça vaut pas le coup de claquer du blé dans un vol de 9 heures en EasyJet à côté d'une mémé qui sent la boule antimite. Et je suis resté chez moi. Bref, j'irai jamais aux Antilles parce que je déteste prendre l'avion. J'ai peur. Je me dis qu'il va se crasher, qu'il va y avoir un attentat. Enfin, dès que je vois monter un Arabe, je suis rassuré parce que je sais qu'il s'est fait contrôlé deux fois plus à l'aéroport. Il a été plus scanné qu'une boîte de petits pois par une caissière parkinsonienne. Mais quand je traverse la business pour aller me mettre au fond avec les gueux et que je vois une blanche l'air déprimée en train de pleurer, mais je me dis c'est elle qui a la bombe. Les mecs l'ont à peine fouillée, ils se sont pas méfiés, ça se voit qu'elle est au bout du rouleau. Et là je la reconnais et je lui dis « Oh bonjour Madame Huppert, vous allez aux Antilles ?» Le souci, c'est que les Antilles, c'est la France, mais c'est loin, encore plus loin que la Creuse. Et on n'en entend jamais parler. Dans le JT de 13h de TF1, il y a dû avoir 9000 reportages sur la baie de Somme et un sur Pointe-à-Pitre. Et encore à l'occasion du jumelage de Pointe-à-Pitre avec Saint-Valery-sur-Somme. L'INA, le service qui garde les images de tout ce qui s'est passé à la télé française, comme la fois où Gilles Verdez avait dit en hurlant qu'il fallait virer Ruquier, ou la fois où Gilles Verdez avait dit en hurlant qu'il fallait virer Berne. Témoigne, ils ont fait les calculs, l'outre-mer n'apparaît qu'à hauteur de 0,5% dans les JT. Alors pour ce faire, ils ont maté tous les JT du soir de TF1, France 2, France 3, Canal, Arte, M6, de 2007 à 2017. Le type qui a fait ça a perdu la vue. La rétine usée par le reflet des projecteurs sur les cheveux de Laurent Delahousse. Ça pardonne pas. Le petit stagiaire qui va au JT de la 2, son deuxième stage, c'est l'Institut National des Jeunes Aveugles. D'après l'étude de l'INA, on a surtout parlé des Antilles en 2009 parce qu'il y avait un mouvement social. C'est à ça que les Antilles sont bien françaises. Et en 2017, à cause de l'enterrement de Johnny à Saint-Barth. Entre 2009 et 2017, que dalle. Et il y en aurait eu encore moins si Johnny était resté en vie comme tout le monde, ou comme Gérard Collomb.
Et les habitants des Antilles, du coup, ne se sentent pas représentés.
Bah bien sûr que non. En 10 ans, on a moins parlé d'eux que de Charlie Oleg. Déjà moi, quand j'étais petit en Bretagne, que je matais Champs-Élysées, j'étais pas dedans. Des tas de stars qui se pavanent en plein Paris. À part quand il y avait Alain Souchon, parce que sa coiffure, je pensais que c'était un nid de goéland. Enfin, ça me parlait pas. Hein, je criais à Drucker, mais viens, Mimi, devant l'hôtel de ville de Quimper. C'est pareil. On a des vedettes. Il y a Nolwenn Leroy. Ok, elle est dans le ventre de sa mère. C'était en 82. Hein. Mais les films, l'échographie, Michel, c'est plus intéressant que François. Mais les régions sont oubliées du PAF. Tout se passe à Paris, dans 4 radios et sur 3 plateaux télé. Si t'habites le Limousin, t'as peu de chances de te faire filmer. Ou alors par un monsieur tout nu qui en même temps se lèche le bord de la moustache. Alors l'outre-mer, c'est pire. S'il n'y a pas de Johnny qui meurt, on n'en parle pas. Et heureusement qu'il voulait être inhumé à Saint-Barth. Parce que s'il avait craqué pour le VVF de Royan, il le foutait sous le bolodrome et les sujets sur les Antilles passaient à 0% du temps d'antenne. Mais le pompon, comme diraient nos auditeurs âgés, c'est-à-dire tous, c'est qu'en plus, France O, la chaîne consacrée en partie à l'outre-mer, va fermer. En échange, Delphine Ernotte, boss de France Télé, a précisé qu'il y aurait une présence renforcée de l'outre-mer sur les autres chaînes. Donc cherchez pas, d'ici 6 mois, n'oubliez pas les paroles sur deux, c'est un spécial zouk. Hein, dans C'est à vous, à chaque repas, ce seront des acras pimentés. Julien Clerc, après interview, passera 1 heure au WC. Tandis que l'autre invité, Franck Dubosc, patientera devant la porte. En attendant, il enfilera un gilet jaune en disant « je suis pour », puis il enlèvera en disant « non, en fait, je suis contre », puis le remettra en disant « non, en fait, j'y réfléchis, je suis pour ». Le jaune, ça l'a rendu fou. Si voit la reine Elisabeth II en petit tailleur, il pète un câble. Mais en attendant, les Antillais sont les parents pauvres des médias. C'est lamentable parce qu'il n'y a pas un Français qui vaille plus ou moins qu'un autre. Les Antilles sont invisibles. C'est le Parti Socialiste, mais en île.
Merci, Denis Bassio.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Pour revenir à votre musique, Jean-Michel, ce qui m'interpelle, c'est les titres que vous donnez à des morceaux. Comment un titre se retrouve? Comment vous dites cette musique-là parle d'un robot qui ne pleure pas, parle du vent, parle de l'infini, parle de ne pas regarder en arrière, comme ce titre-là, Don't Look Back. Comment un titre naît?
C'est en général la musique instrumentale. Enfin, c'est, quand on fait une chanson, c'est facile de trouver le titre. Il vient des paroles. Quand il s'agit d'une musique instrumentale, moi, je suis toujours circonspect, on va dire, par rapport au fait de mettre des titres. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'albums comme Oxygène, Equinox, les premiers albums que j'ai pu faire, ou même
avec,
plus récemment,
avec plutôt qui ont
simplement des parties comme les chapitres d'un livre, où il y a un titre générique. Dans ce cas-là, comme il s'agissait justement, comme je le disais un peu, de faire un peu comme une musique d'un film que j'avais dans la tête, j'avais envie de mentionner un peu les différentes étapes de l'histoire de ce scénario. Et donc, du coup, très naturellement, j'ai mis des titres qui me venaient par rapport à l'histoire que je me racontais. Et je trouve que le gros avantage, enfin, la caractéristique de la musique instrumentale par rapport à la chanson, c'est qu'une chanson vous raconte une histoire à travers les paroles que vous entendez. La musique instrumentale vous permet de faire au fond la bande son de l'histoire ou du film que les gens peuvent
chacun
se créer et que chacun peut se créer. Mmh. Et c'est un petit peu ça pour cet album en particulier aussi. Et le Robots Don't Cry, les robots qui ne pleurent pas, j'aurais dû en fait l'appeler Robots Don't Cry So Far. C'est-à-dire les robots ne pleurent pas jusqu'à maintenant.
C'est ça.
Parce que je suis convaincu qu'un jour, les robots peut-être seront capables de nostalgie.
On l'entend, on le sait quand on on a la chance de vous connaître. Vous êtes extrêmement brillant, vous avez des idées, vous avez des visions bien précises. Et je trouve presque dommage que vous, alors si c'est pas pour vos albums, pour d'autres, que vous n'écriviez pas des textes de chansons, parce que les chansons aussi, dans les textes, les chansons à texte, touchent, émeuvent, peuvent par moments bouleverser le monde, comme certaines chansons de Dylan l'ont mené d'ailleurs jusqu'à un prix Nobel.
Alors, je me venge de deux façons. D'abord, je suis en train d'écrire un livre, donc on verra ce que ça donne. Bon, et
qui est,
ensuite...
qui est un roman d'anticipation, qui est une bio, qui est quoi?
C'est un entre les deux. Et donc, du coup...
Comment pas répondre à une question?
Oui, par là,
tu sauras pas.
C'est par là.
C'est entre les deux,
dans cette zone.
C'est dans ce genre-là. Dans cette zone-là. Et puis, j'ai fait... En fait, on s'est jamais tout à fait quitté avec Christophe. Et il y a 2-3 ans, il m'appelle, il me dit, bon, il faut absolument qu'on fasse un album ensemble. Et puis, j'étais en plein dans l'Electronica, l'album précédent, qui m'a pris beaucoup de temps, sur lequel, d'ailleurs, Christophe est venu jouer. Et en fait, il m'appelle un jour, il me dit, écoute, je vais passer pour un con avec la maison de disques parce que finalement le temps passe, il faudra au moins qu'on écrive un truc ensemble. Et donc j'ai fait Les Vestiges du Chaos qui est la chanson qui a donné le titre au dernier album de Christophe. Donc, mais Christophe m'inspire beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'on a on a tous les deux une passion du son. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans les textes de chansons, c'est finalement de partir de la phonétique. On sait à quel point il y a une différence entre écrire en français et écrire en anglais. Mmh. et écrire en français. Par exemple, moi j'avais un dogme à l'époque des Mots Bleus ou des Paradis Perdus, c'est d'écrire des chansons d'amour sans mettre le mot amour, par exemple. Et ce genre de choses qui sont des dogmes qui sont pas si idiots que ça, parce qu'en fait ça vous force à raconter les choses d'une autre manière. Et voilà, donc, mais je suis pas du tout contre. Après, c'est un problème de rencontre, quoi, surtout.
Et pour une chanson, notamment c'est pour Equinox Infinity, vous avez eu un petit entretien avec le professeur Stephen Hawking.
Bah, c'était, oui, j'ai eu la chance d'être l'honneur même de recevoir la médaille Stephen Hawking l'année dernière pour art et sciences communication. Enfin, c'était un moment très 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 touchant, puisqu'il nous a d'autant quitté. Plus touchant qu'il nous a quitté il y a quelques mois. Mm-hmm. Et il m'a dit une chose qui était tout à fait. Enfin, il m'a dit, parce qu'il parlait en fait, même s'il parlait par son ordinateur interposé, que en fait, je lui ai demandé quel était le plus grand mystère de l'univers. Il m'a répondu, les femmes.
Bah tiens, voici une qui va venir chanter. Dreamcatcher est sur le nouvel album qui s'appelle Heart Mouth de LP. Elle sera en concert au mois de mai, le 5 mai exactement, à La Cigale. Nouvel extrait de cet album, voici Girls Go Wild, c'est LP dans la bande. I've been hounded, I've been hunted and tamed. I'm the outlaw of outside and ready to rage. I'm in search of a heart I can eat to renew me. Yeah. And I'm dazzled by all of the things that undo me. Girls go wild on the west coast. Oh my baby, let's go. That's what she said. Oh, sunshine brighter than blind love. It's all in the name of the wild, wild west. What you can. When we fuck, now it feels like you don't understand. I tell you what, it don't suck, and I need you right now.
wild on the west coast. Come on, baby, let's go. That's what she said. Ah, oh, oh, sunshine, brighter than blind love. It's all in the name of the wild, wild west.
Thank you, guys. Thank you, Happy. Thank you. Girls on Fire, Girls Go Wild. C'est sur l'album, pardon. Girls Go Wild, c'est sur l'album de Help. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a des chansons extrêmement comme ça positives dans la musique, mais qui partent d'expériences très sombres, notamment avec une histoire d'ex qui la quitte, et ça donne des chansons positives. J'aime bien, ça rejoint un peu le décalage dont vous parlez tout à l'heure entre les chansons, oui, les musiques vrai. Et les textes.
Et je pense que de toute façon, finalement, on exprime tous depuis la nuit des temps les mêmes sentiments, les mêmes rapports à la solitude, l'amour, la haine, etc. Ce qui fait la différence, c'est finalement la manière dont on aborde ces sujets. Elle les aborde avec d'une manière totalement unique. Et c'est ça qu'on
aime. Une voix très émouvante et très touchante. Girls Go Wild. Faites encore du bruit pour LP.
Bravo.
Autant de talents concentrés dans cette émission entre Jean-Michel Jarre et LP. Il fallait bien un contrepoids. Voici Daniel Morin.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sais. Quelle joie quand j'ai découvert ça hier dans la presse, quand je pense que j'ai failli passer à côté de cette info. Une info de première bourre pour qui s'est passé du bon temps. Qui s'est passé du bon temps et se donner les moyens de vivre un réveillon d'exception. Bien entendu, en tant que radio du service public, je me devais de partager avec vous, amis auditeurs, ce bon plan de ouf. Attention pour la Saint-Sylvestre, je vous propose de vivre les 12 coups de minuit en bord de Seine. Alors, Hartung, en bord de Seine, certes, mais pas sur une péniche pourrave comme il en existe à Paris qui flotte mollement à bout de quai et sert de la bière chaude. Non, je vous propose la Seine, hein, mais celle dans ce qu'il y a de plus pur du côté de l'île de la Jatte, dans son cadre enchanteur. Alors attention au menu, apéritif avec amuse-bouche de la Saint-Sylvestre, à la tienne, foie gras de canard, mi-cuit, miam-miam, demi-yama, yummy, cœur de filet, charal, vache rat glacée, glagla, dîner, champagne et vin pour 195€ seulement, le tout dans une ambiance assurée par un orchestre de Zigane avec tout au long de la soirée de multiples animations. Et qui organise ce réveillon enchanteur? Quand j'ai lu l'info, j'ai failli tomber d'excitation. C'est organisé par Patrick Balkany et l'ensemble de son équipe municipale. On se serait trop bête de passer à côté d'une telle proposition. Finir l'année et commencer la suivante en dansant avec le couple Balkany sur Desert Zigane. Je vais bien payer 195 et même beaucoup, beaucoup plus. Ça va être une soirée de déglingos. Écoutons le message promo de la mairie de Levallois-Perret pour l'événement. Tu aimes la fête, tu aimes rire, tu aimes danser, tu aimes les leaders politiques charismatiques, tu as 195€ à investir dans tes loisirs, alors viens le 31 sur l'île de la Jatte, au restaurant Le Petit Bousset. En plus de la bouffe de ouf, tu pourras guincher toute la nuit au son de la musique Zigane. S'il y a une chose qu'ils savent faire, les manouches, à part voler des poules, des chèvres et du cuivre, c'est mettre de l'ambiance. Le maire en personne, Monsieur Patrick, sera là pour fêter 2019 avec tous ses amis. Pour l'occasion, le meilleur ami de Monsieur Patrick sera là pour distraire la foule. Et le meilleur ami de Monsieur Patrick, attention, c'est une célébrité. Oui, c'est Nagui, le monsieur arabe de France 2, qui pour son ami Patrick organisera un, n'oubliez pas les paroles, spécial trésor public avec des chansons d'artistes pratiquant l'évasion fiscale. Et ce n'est pas tout. Niveau animation, rien n'a été laissé au hasard. Des ateliers armes à feu seront proposés aux enfants de Levallois, ce qui permettra aux parents pendant ce temps-là d'assister aux mini-conférences dispensées par le maire en personne et intitulées Corruption, blanchiment et art de vivre. Plus ludique, un stand réalité virtuelle vous plongera dans l'univers feutré d'une banque panaméenne où vous gérez le rôle d'un élu municipal qui vient ouvrir un compte déposer de l'argent
son sale. À noter qu'avant les 12 coups de minuit, si vous êtes un entrepreneur désireux de travailler en collaboration avec la municipalité de Levallois, Monsieur Patrick vous attendra dans sa loge pour parler contrat en échange de la traditionnelle petite enveloppe qui, on le sait, entretient si bien l'amitié. Une fois la soirée terminée, non seulement vous vous serez amusé comme des fous, vous aurez mangé comme des vaches, vous aurez peut-être même passé des contrats, mais surtout, vous vous serez fait plein de nouveaux amis avec qui vous irez vomir le dîner dans la Seine sans laisser de traces, la devise de la ville. Venez nombreux fêter la nouvelle année en compagnie de Patrick, Isabelle et tous leurs amis. Attention, le nombre de places est limité. Le restaurant, c'est Le Petit Pousset, 4 ronds-points Claude Monet, 92-300 Levallois. Quand j'ai découvert l'info hier soir, j'étais tellement excité. J'ai inscrit tout le monde! Toute l'équipe de la BO, vous aussi Jean-Michel, vous aussi le public, on s'en fout. De toute façon, il n'y a plus de pognon pour sauver la planète, on va tous crever. À demain.
Merci Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Chiche. Et il y a, et je me demande, est-ce que c'est une première mondiale, mais à propos de réalité virtuelle, il va se passer quelque chose autour de l'album Equinox Infinity, Jean-Michel.
Oui, cet après-midi à 15h, en fait, il y a un groupe, un collectif de Los Angeles qui est assez innovant, qui s'appelle The Wave, qui a décidé de faire une performance en réalité virtuelle, vous savez,
avec les masques,
où qu'on peut suivre sur mon Facebook aussi, en 2D normalement, qui autour de Equinox Infinity. Et donc c'est assez amusant parce
qu'on va pouvoir se balader dans un monde virtuel,
dans un monde totalement
avec les Watchers.
Ouais, et avec ces Watchers et ce garçon qui s'appelle Sutu, qui était très très talentueux, c'est lui qui a fait les effets spéciaux du dernier Spielberg Ready Player One. Et c'est vraiment tout à fait
15 heures, vous
intéressant.
Dites,
et ensuite, le truc qui est drôle, c'est que en fait, je fais un exercice de questions-réponses où en fait, mon avatar, où je ressemblais à une sorte de renard bleu, va venir dans ce monde virtuel répondre à des questions de DJ qui eux-mêmes seront là avec leurs propres avatars. Donc, génial. Ça va être une question-réponse où je pourrais rester dans mon lit, mais être
comme dans
à
le,
la fois présent.
Comme dans le film de Spielberg.
Ouais,
c'est ça.
Comme dans le film de Spielberg. Ouais, comme dans le film, c'est exactement ça. Ouais.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, bien sûr, désolé pour les fans de Chiquito Guiz qui ont découvert que leur idole, en plus d'avoir eu, comme chaque semaine, sa chronique salopée par Nagui, a livré une prestation catastrophique lors de l'interro. 0 points et beaucoup d'humiliation. Chapeau l'artiste, hein, vivement le Bataclan les 13, 14 et 15 août prochains.
En décembre.
Désolé pour Nagui qui a découvert la proximité, l'amitié, l'amour même entre Jean-Michel Jarre, star mondiale et planétaire, et Pepito Guiz, humoriste has-been en fin de course. C'est vrai, c'est surprenant, mais la vie est une grande surprise. Désolé enfin pour Nagui qui s'est fait rabrouer par Jean-Michel Jarre, qui a eu l'insolence de demander à Nagui de le laisser finir une phrase. Ah mon Jean-Mi, si vous saviez le nombre de personnes invitées comme chroniqueur que vous venez de venger, gloire à toi Saint-Jacques.
Merci Jean-Michel, bravo pour l'album.
Merci.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
Et demain donc Florent Père sera notre invité, je vous demande de nous écouter.